Bonjour Stéphane Le Foll.
Bonjour.
Les députés socialistes ont estimé hier que la grève aurait pu être évitée, la grève à la SNCF, si le gouvernement n'avait pas commis certaines erreurs, notamment sur la forme et sur la méthode. Est-ce qu'il faut comprendre que vous n'êtes pas hostile à la réforme en elle-même, sur son contenu ?
D'abord, il faut rappeler, alors je ne sais pas de quel député socialiste vous parlez, mais ce qu'il faut
rappeler... Brice Valo notamment.
Brice Valo, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a eu une réforme en 2014. La preuve que cette réforme a été faite sans qu'il y ait de gros problèmes, c'est que personne ne s'en souvient, même les socialistes. Cette réforme visait justement à l'ouverture à la concurrence, avait recréé une unité de la SNCF et de Réseau Ferré de France avec trois EPIC, c'est-à-dire trois établissements publics commerciaux, et avait engagé des négociations et des éléments de négociation, de modification sous statut des cheminots. Mais tout ça s'est passé dans la négociation, avec un objectif qui était l'ouverture à la concurrence, dans une négociation du quatrième paquet ferroviaire qui avait repoussé cette ouverture à la concurrence, en particulier pour les trains voyageurs, les TGV, qu'il avait organisé pour permettre à l'établissement public SNCF de pouvoir être le premier à être sur les appels d'offres. Et tout ça s'était passé sans aucun problème. Alors c'est vrai qu'après... nous présenter cette réforme comme la mère des réformes, comme ce qui allait remettre en cause à la fois le statut des entreprises, ça c'est une erreur. Et de le faire en plus avec l'idée que les cheminots seraient désavantagés par rapport à d'autres, et que donc il n'y a pas de raison qu'ils refusent la réforme, c'était d'essayer de monter les cheminots contre les autres catégories. Je me rappelle du salon de l'agriculture, quand il dit aux agriculteurs « vous n'avez pas de retraite », et voilà. On ne fait pas ça. Mais après, il ne faut pas s'étonner, quelquefois les gens réagissent.
Dans la contestation aujourd'hui, dans les mots d'ordre des grévistes, il y a justement la dénonciation de l'ouverture à la concurrence. Vous dites, au fond, elle était passée comme une lettre à la poste, mais...
C'est pas comme une lettre à la poste, je sais qu'il y a des cheminots...
Mais est-ce qu'il fallait la faire ? Est-ce qu'elle était nécessaire, cette ouverture
à la concurrence ? C'est des décisions qui ont été prises dès 97.
Ouais.
Quand l'Europe s'ouvre, quand il y a un grand marché, les trains commencent à bouger. Vous avez le Thaïs qui fait Paris... Bruxelles, Amsterdam. Vous avez des, et c'est logique, de la SNCF qui va jusqu'en Allemagne et la Deutsche Bahn qui vient aussi vers la France. Donc, de toute façon, ceux qui disent on peut pas changer et on reste avec la SNCF en France, la Deutsche Bahn en Allemagne, les Belges chez les Belges, c'est pas vrai.
Puisque c'est, c'est inéluctable.
Mais c'était, il y a une organisation nécessaire du transport ferroviaire à l'échelle européenne. À l'échelle européenne. Oui. Les trains vont vouloir aller dans les autres pays. Et c'est normal, puisque les gens bougent. Donc il faut l'organiser. Alors, est-ce que c'était inéluctable ? On aurait peut-être pu avoir des systèmes de coopération, je sais pas, dans un autre modèle. Ce qui a été choisi en Europe, c'est pas l'Europe en tant que telle, c'est tous les pays européens. Ce qui a été choisi, c'est d'organiser, justement, avec des réseaux structurants, eh bien, une forme de concurrence, une forme, parce que ça sera encadré, pour permettre aux trains et aux voyageurs de voyager en Europe. Voilà. Bon, alors après, j'ai bien entendu que chez certains cheminots, ils étaient contre ça.
Ouais, parce qu'ils pensent que ça va aller vers une privatisation.
Non, ce qui peut aller vers une privatisation, c'est le changement de statut.
Le passage en société anonyme.
En société anonyme. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un sujet. Et sur lequel, moi, je suis opposé.
Le Premier ministre, hier, a présenté les grandes lignes de la réforme institutionnelle. Réduction de 30% du nombre de parlementaires, introduction d'une dose de 15% de proportionnel aux législatives, disparition de la Cour de justice de la République et limitation à 3 mandats consécutifs, sauf pour les maires des communes de moins de 9000 habitants. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous ?
Alors, la réforme sur le Conseil supérieur de la magistrature a été déjà faite. Donc je suis très heureux de constater que ce qui avait été engagé est validé. Bon, ça, je ne vais pas aller contre, puisque c'est ce que nous avions souhaité. Ouais. Le reste, je suis farouchement, comment dire, mon colère, c'est pas le sujet, puis c'est grave.
Et c'est pas suffisant
Non, farouchement opposé au nom d'une idée que je me fais de la démocratie. Ce qui est en train de s'engager, c'est une forme démagogique d'antiparlementarisme. Et en plus, sous couvert de démocratie, c'est-à-dire avec de la proportionnelle. Comment expliquer logiquement qu'on va favoriser la démocratie, la représentation des courants d'opinion en France, la démocratie et le Parlement, en disant qu'on diminue 30% tous les parlementaires? C'est une contradiction.
Oui, mais en disant qu'on va leur donner plus de moyens pour mieux travailler.
Alors, de toute façon, si c'est, je le dis aux Français qui le souhaitent, puisque quand vous dites aux Français...
Oui, apparemment, les sondages disent qu'ils sont très favorables,
mais
en effet.
Mais c'est évident. Vous dites qu'il y a trop de députés. Bien sûr, il y a trop de députés. Mais pourquoi en garder 300 ? Il n'y a pas une démocratie, et je suis à RFI, donc je parle à des spécialistes. Si vous regardez dans le monde démocratique, et en Europe ou ailleurs, où lorsque un pays comme la France, une démocratie, a gagné près de 12 à 14 millions d'habitants, on était 577 députés, c'était peut-être trop quand on était 54 millions d'habitants, hein. C'était peut-être trop. Mais on est toujours 577, et moi je suis pas pour augmenter, c'est tout à fait, et c'est très bien comme ça, quand on est 66, 67 millions d'habitants. Il n'y a pas une démocratie. C'est bien un problème qui va faire que demain, avec cette réforme, c'est la concentration du pouvoir et de l'enjeu démocratique uniquement dans une élection, l'élection présidentielle.
Qu'est-ce qui motive le président de la République ?
Ça.
C'est-à-dire concentrer plus de pouvoir encore ?
C'est l'idée qu'il y a des corps intermédiaires qui ne servent à rien. C'est vrai que la démocratie, c'est quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite de prendre justement le temps de s'expliquer, le temps de dialoguer. Je crois que là, de ce côté-là, il y a une espèce de volonté d'accélérer l'idée qu'un pays doit changer, parce que s'il ne change pas, il ne va pas pouvoir continuer à croître. On s'aperçoit que quand on regarde l'histoire, il n'y a jamais des grands changements et des grandes ruptures qui font qu'un pays se réveille un matin avec le grand printemps qui s'ouvre devant lui. C'est pas vrai. C'est des changements qui se font à chaque fois avec des évolutions, bien sûr, des réformes, bien sûr, mais qui doivent avoir ce sens du temps qu'on est en train de perdre avec cette économie de la start-up, cette idée que tout peut changer du jour au lendemain et en quelques instants. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Le congrès du Parti Socialiste a lieu ce week-end et un sondage révèle que les Français perçoivent trois priorités pour votre parti. Comprendre les raisons de ses échecs, qui est en tête. Préparer un projet pour la France, bon, c'est bien le moins. Et renouveler ses dirigeants. Est-ce que vous auriez défini les mêmes priorités ?
Oui, absolument. Moi, j'ai pas de problème.
Comprendre les échecs, construire un projet.
Je vois le petit sourire avec le renouveler les dirigeants, l'air de dire, alors, mon vieux con, qu'est-ce que tu fous là encore ce matin? Tu peux pas être dégagé.
Les caméras seront témoins puisque cet entretien est filmé, mais bon.
J'anticipe. Je vois, au travers de votre regard et du sourire qu'il a suscité, le sens de la question. Le renouveau, là aussi, c'est des, renouveler pour renouveler. Très bien, renouvelons. Et puis, mettons des jeunes. Mais pour faire quoi? Pour dire quoi? Est-ce que les vieux ont encore le droit de parler? Regardez chez les journalistes, hein, y en a qui font des carrières, mais jusqu'à là, jamais on se pose la question. Ils sont toujours très bons. Bon. Alors moi, je ne me considère pas comme meilleur. Hein. Je suis tranquille là-dessus. J'ai beaucoup de recul sur moi-même. Je suis modeste. Mais quand même. Alors le renouveau, oui, bien sûr, il faut renouveler. Mais c'est d'abord les idées.
Mais c'est pas une fin en soi, ce que vous dites. Hein,
mais bien sûr que non. Mais il faut arrêter avec tous ces. C'est comme ceux qui se présentaient à un moment en disant, en changeant de costume, en mettant pas de cravate, je vais montrer que je suis moderne. Ouais. Ça n'a jamais marché, jamais. Et quand vous commencez à faire de la politique en expliquant que vous allez renouveler la politique, déjà vous avez perdu du temps et vous avez surtout dit rien du tout. Rien du tout.
Pendant la campagne pour la direction du Parti Socialiste, vous disiez, Stéphane Le Foll, que la notoriété est un atout. Pour faire de la politique, disiez-vous, il faut être en capacité d'être entendu. Si personne ne vous connaît, vous ne risquez pas d'être entendu. Est-ce qu'Olivier Faure a la notoriété suffisante pour être entendu ?
J'ai perdu.
Oui, mais...
Donc moi, je voulais que je vous dise, j'ai dit ce que je pensais.
Ouais.
Et si je le dis, c'est parce que je le pensais. C'est un vrai sujet, d'ailleurs. Je le disais souvent dans le congrès. C'est embêtant avec moi parce que je dis ce que je pense et en plus c'est pire.
Ce que vous dites.
Et je pense que je dis. Donc c'est vraiment pénible. Bon, donc moi j'ai dit ce que je pensais. Je pensais que j'avais cette capacité à faire exister le Parti Socialiste et bien sûr à ouvrir ensuite des perspectives de renouvellement. C'est Olivier Faure qui a été choisi. C'est Olivier Faure qui deviendra premier secrétaire. Donc moi, je respecte le choix des militants.
Vous allez essayer.
Mais ça ne change pas pour autant ce que j'ai dit et ce que je pense.
Vous allez essayer de porter, vous signez ce matin une tribune dans le Huffington Post, l'idée de la croissance sûre, la croissance durable qui s'appuie sur l'écologie.
Oui, qui s'appuie sur l'écologie. J'ai trouvé que le rapport Harlem Globe-Brundtland, première ministre social-démocrate, en 87, sur le développement durable, économie, écologie, sociale, avait été complètement passé à l'as. On n'a rien fait. On n'a pas renouvelé notre pensée. Et quand les Français cherchent à trouver et à dire au PS, renouvelez votre pensée, ben je pense que l'idée de la croissance sûre, qui consiste à dire, on va faire économie, écologie, parce que derrière, ça nous permettra de faire du social, ça, il faut le travailler, et c'est ce que je propose.
Merci Stéphane Le Foll. Bonne journée.